L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement PDG d'Uldis Aviation. Avec lui, nous allons discuter des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, notamment les aéronefs chasseurs-bombardiers de type F-16. Lors de la pause, à la fin de la première partie de notre entretien, Spoutnik Afrique fera le point sur les derniers développements dans la zone de conflit entre Israël et Gaza et évaluera avec l'aide d'un expert les risques de propagation en Afrique de la catastrophe humanitaire qui menace la région. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Lors du sommet du G7 qui s'est tenu du 19 au 21 mai au Japon, le président américain Joe Biden a donné l'autorisation à d'autres pays pour livrer à l'Ukraine des avions de combat F-16. La livraison de ces avions, développés aux États-Unis dans les années 70 et actuellement utilisés par 25 pays, était jusque-là bloquée par Washington. Reste à savoir qui acceptera de fournir des F-16 à l'Ukraine et avec quelles armes ces avions seraient équipés. À en croire les dernières informations, ce ne seront désormais pas les États-Unis, pays producteur et disposant du plus grand stock avec 936 appareils, toujours en service, étant donné la position clairement exprimée en début de l'année 2023 par le président américain qui formellement rejetait cette possibilité. Après l'armée américaine, c'est l'armée turque qui possède le plus de F-16 avec 243 appareils opérationnels, suivis par Israël 224, l'Égypte 218, la Corée du Sud 167, la Grèce 153 et Taïwan 136, et avec 66 en cours de construction et en commande. D'autres pays européens comptent également plusieurs dizaines d'appareils en stock, comme la Belgique 52 et la Pologne 48. Mais jusqu'à présent, il n'y a que trois pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, qui ont confirmé leur décision de livrer ces appareils à l'Ukraine. En 2024 et en 2025 pour ces deux derniers, des échéances plus ou moins longues relativement au déroulement des opérations militaires sur le terrain et à la période nécessaire incompressible pour former des pilotes compétents. Ainsi, après plus de trois mois du début de la contre-offensive ukrainienne et atlantiste, dont l'échec est patent, les quelques F-16 qui seraient livrés à l'Ukraine apporteraient-ils la panacée tant attendue par les militaires et les combattants de ce pays? Comment lire ces événements à l'aune des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le commandant de bord à la retraite français Cyril Delattre, actuellement PDG de Wengis Aviation, qui est spécialiste de la formation des pilotes et de personnel de navigation. Cyril Delattre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour nous et pour nos auditeurs. Alors, la première question qui vient à l'esprit de tout le monde actuellement, malgré l'envoi incessant d'armes de tout type, de mercenaires aux idéologies qu'on connaît actuellement, fascistes, nous ne pouvons pas, personne ne peut le nier, et des formateurs, l'armée ukrainienne n'a toujours pas réussi à changer le rapport de force face à l'armée russe. Alors, en tant qu'aviateur et spécialiste de la formation de pilotes et du personnel de navigation, l'envoi probable d'avions F-16 ou de chars Abrams pourrait-il changer enfin la donne? Et quid de la formation des pilotes pour utiliser efficacement ces aéronefs?
Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que avant même de penser à mettre en service des F-16 sur le conflit ukrainien, c'est vrai qu'il faut déjà avoir des pilotes qui soient formés sur la machine. Former des pilotes sur ce type de machine, spécialement quand on a des pilotes qui viennent d'Ukraine, mmh. avec un niveau d'anglais qui est relativement faible, puisque les premiers pilotes qui ont été ACC aux États-Unis au mois de mars-avril 2023 ont révélé un déficit d'anglais qui était assez conséquent, sachant que tous les manuels de vol sont en anglais, l'instruction se fait en anglais, ça va poser un problème. Donc déjà, il y a une remise à niveau obligatoire des quelques pilotes qui vont devoir partir en formation sur ces avions, et c'est une remise à niveau qui n'est pas une remise à niveau de 15 jours, c'est une remise à niveau de plusieurs mois. Mmh. Ensuite de ça, la plupart des choses que les gens voient, en fait, c'est la partie du vol. Or, le vol, c'est comme la partie immergée de l'iceberg. Mmh. Il y a toute la partie sous l'eau, et toute la partie sous l'eau, c'est toute la maintenance qui va derrière. On peut pas opérer un avion comme le F-16 sans avoir un système de maintenance dédié à cet avion qui va derrière. Mmh. Et c'est pareil, ces gens doivent être aussi formés à la maintenance et aussi formés à l'anglais, puisque les systèmes de maintenance sont faits en anglais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que... une fois que ces pilotes seraient formés, ça changerait la donne ? Non, ça changera pas la donne. Pour la bonne et simple raison, c'est que opérer un type d'avion comme celui-ci sur le théâtre des opérations ukrainien, c'est quelque chose qui est relativement complexe. D'une part, de par l'étendue du pays, mmh. et d'autre part, par la complexité de l'avion en lui-même. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, les Ukrainiens disposent d'une flotte d'aéronefs dans leur armée de l'air qui va du Sukhoi 25 au Sukhoi 24, au MiG-29, et d'autres types d'appareils qui sont des appareils qui datent de l'ère soviétique. Certains pays inamicaux ont fourni des avions rétrofités à l'Ukraine. Mais ça reste des avions ancienne génération. Le F-16 est un avion qui est nouvelle génération, c'est un avion qui est sensible, qui doit être opéré à partir de pistes propres.
Et c'est-à-dire où il n'y a pas de poussière.
Alors en fait, le gros problème du F-16, c'est que l'entrée d'air se situe à environ à 80-85 cm au-dessus du sol. Mm-hmm. Lors de la mise en poussée du réacteur, puisque c'est un mono-réacteur, l'air est aspiré, mais vu la quantité d'air que ce réacteur aspire, lors de la mise en puissance, s'il y a des pierres qui traînent sur la piste, s'il y a des objets résiduels, etc., ça risque de rentrer dans le système de turbine et de mettre par terre le réacteur. Mmh. Donc, à l'inverse de certains avions, par exemple, comme certains Sukhoi, qui ont des entrées d'air avec des trappes, qui permettent de pouvoir décoller de pistes non préparées, de portions de route ou d'autoroute ou même d'autres types. Le F-16 n'est pas du tout équipé pour faire ça. Et en plus de ça, il lui faut 2500 mètres de piste. Mmh. Donc il faut trouver en Ukraine où se trouvent les pistes qui font 2500 mètres et plus. Et ces pistes-là ne peuvent pas être dans la partie est de l'Ukraine parce que c'est trop proche de la ligne de front. Mmh. Et donc ça devrait être dans la partie ouest de l'Ukraine, pour les terrains qui sont encore existentiels.
Donc, Cyril Delattre, est-ce que, si j'ai bien compris ce que vous voulez de dire, que d'un point de vue des infrastructures aéroportuaires, l'Ukraine ne dispose pas du nécessaire pour recevoir les F-16?
Elle ne dispose pas des pistes, pour l'instant, elle ne dispose pas des pistes nécessaires pour recevoir ces avions. Elle ne dispose pas des infrastructures pour recevoir de maintenance pour recevoir et opérer ces avions correctement. Mmh. Et elle ne dispose pour l'instant absolument pas des pilotes formés sur ces appareils. Donc, il est vrai que certains pays comme la Belgique et le Danemark viennent de confirmer, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, qu'ils fourniraient pour l'un en 2024, l'autre en 2025, ce type d'appareil à l'Ukraine. En attendant, des pilotes vont être formés à l'étranger. Malheureusement, et vraiment malheureusement, la France fera partie de ces pays qui vont former ces pilotes sur un modèle qui est plutôt inquiétant parce que le cursus de formation qui va être dispensé à Cazaux, qui est une base de l'armée de l'air française, est un cursus de formation qui va jumeler à la fois des vols sur PC-21, qui est un monoturbopropulseur qui se comporte comme un avion à réaction. Enfin, c'est le fabricant...
C'est-à-dire un peu le similaire du F-16.
Pas vraiment le similaire du F-16. En fait, le gros problème sur un avion à réaction, c'est que lorsqu'on agit sur les commandes de vol ou sur les commandes de puissance moteur, on a un temps de réaction qui va être plus ou moins long et une réaction d'un certain type. Les turbopropulseurs, en règle générale, qui sont des moyens de formation moins coûteux que le jet par lui-même, à des comportements qui sont encore différents. Et lorsque Pilatus a créé le PC-21, le PC-21 est un avion turbopropulseur qui se comporte comme un jet, qui a les réactions moteurs et le comportement de vol d'un jet, ce qui en fait un outil de formation qui est peu cher. Et la France a acheté des PC-21 à la Suisse, puisque la France a décidé mais de mettre au rencard...
Pourquoi vous dites que c'est inquiétant
Je dis que c'est inquiétant parce que selon le cursus de formation, on va voir des pilotes qui vont être formés à la fois sur PC-21, puis sur les Alpha Jet que nous avions mis à la retraite et qui, depuis le mois de juillet 2023, les derniers pilotes de chasse français ont été macaronnés sur cet avion en 2023. Là, les avions vont être ressortis et les pilotes ukrainiens vont alterner formation sur PC-21, puis formation sur Alpha Jet. Et à l'issue de cette formation, ils sont théoriquement envoyables en formation soit sur F-16, pourrait être théoriquement envoyable sur formation, en formation sur Rafale ou sur Mirage 2000.
D'accord.
Et le problème, c'est que mettre à disposition de l'Ukraine ce type d'appareil et les capacités d'armement que ces appareils peuvent avoir...
Quels appareils
Que ce soit le F-16, que ce soit le Mirage 2000 ou d'autres, ce sont des appareils qui potentiellement pourraient permettre des frappes au-delà de la ligne de front et donc sur le territoire russe.
C'est-à-dire avec des missiles de longue portée,
avec
comme
des
le SCALP,
missiles, avec des missiles de longue portée. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'une formation de pilote sur F-16, pour parler du F-16, puisqu'aujourd'hui on parle du F-16, c'est un an et demi de formation. Tout dépend de savoir de quelle manière et pour quel motif et pour quel armement on va utiliser cet avion.
Mais une question, Cyril Delattre. Moi, j'ai fait une fois un cours de pilotage. C'était un truc d'enfance. Je me suis dit, voilà, je vais quand même essayer de faire ça une fois. Mais si je comprends, d'abord, il faut beaucoup de temps. Je l'ai constaté moi-même. Pour maîtriser tous les paramètres pour faire décoller un avion ou le faire atterrir, mais pour devenir un pilote de chasse ou aller au combat, il ne s'agit pas uniquement de faire décoller un avion et de le faire atterrir. Il faut avoir les capacités de manœuvre, les capacités d'autres. Est-ce que la période qui est assignée justement à la formation des pilotes ukrainiens est suffisante pour acquérir ce genre de connaissances?
Non. Clairement non, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans la phase de formation d'un pilote sur le F-16, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique qui est le pilotage pur, c'est-à-dire faire décoller l'avion, naviguer, le faire se poser soit par bonne visibilité, soit par mauvaise visibilité, ce qu'on appelle des procédures aux instruments. Et puis, une fois que ça c'est acquis, il y a toute la partie entraînement et formation à utiliser les systèmes d'armes.
Ouais.
Le système d'armes que l'on peut voir sur le F-16 est complètement différent, et même le cockpit est complètement différent des avions soviétiques ancienne génération.
D'accord.
On est sur des écrans LCD, alors que sur les avions ancienne génération soviétiques, on est encore sur des instruments à aiguilles. Et donc, toute l'avionique et tout le système d'avionique, les pilotes ont besoin de s'entraîner à ça. Et après ça, quelles armes vont-ils utiliser et de quelle façon vont-ils entraîner ces pilotes ? De ce que l'on sait du premier assessment qui a eu lieu en mars-avril 2023, on sait que les Américains n'ont pas l'intention de former les pilotes de F-16 sur l'ensemble du domaine d'utilisation de cet avion.
D'accord.
Et d'un autre côté, c'est aussi un peu compréhensible, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a la maîtrise totale du ciel ukrainien, quoi qu'en disent certains, la Russie a la maîtrise totale du ciel ukrainien. S'ils voulaient opérer leurs propres avions à l'intérieur du territoire ukrainien, ils pourraient le faire sans problème, mais pour éviter certains risques, ils peuvent aussi se contenter de le faire sans pénétrer sur le territoire ukrainien depuis le territoire russe.
Ils ont des capacités de tirer des missiles de croisière.
Avec des missiles longue portée, etc. Donc il faut savoir que tout ce qui vole aujourd'hui dans l'espace aérien ukrainien est automatiquement détecté par le système de défense anti-aérienne russe. Ça, c'est le premier point. Donc, pour ce type d'appareil, pour faire leur mission. Comme ils ne pourront pas être basés dans l'est de l'Ukraine, ils seront forcément basés dans l'ouest de l'Ukraine. Il va falloir faire voler ces avions basse altitude, haute vitesse, pour éviter qu'ils soient détectés trop tôt, ce qui veut dire un accroissement de la consommation de carburant qui est considérable, d'autant plus que cet avion n'a pas la capacité à traverser l'Ukraine, faire sa mission et revenir de l'autre côté de l'Ukraine, sans être ravitaillé en vol. Il n'y a aucun ravitailleur de disponible pour l'Ukraine, et aucun pays européen, ni même de l'OTAN, ne prendra l'odieuse décision d'envoyer des tankers au-dessus du territoire ukrainien pour ravitailler ces avions.
D'accord.
Donc, ça veut dire emporter des bidons supplémentaires. Qui dit emporter des bidons de carburant supplémentaires dit une augmentation du poids de l'avion, et forcément, ça veut dire une augmentation de la consommation de carburant. Donc, ça va
et
forcément...
peut-être diminution aussi de l'armement.
Et forcément, une diminution de l'armement et une diminution de la capacité opérationnelle
d'accord,
de cet avion.
D'accord.
Si maintenant, il décide de faire monter cet avion à haute altitude, haute vitesse, il va être détecté illico presto, et les mecs feront une sortie et ne rentreront jamais.
D'accord, bien. Alors, maintenant, passons aux choses politiques et géopolitiques. Alors, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, à suivre ce qui se dit dans les médias mainstream occidentaux et les experts qui y défilent à longueur de journée, la Russie aurait perdu la guerre face à l'OTAN et à l'armée ukrainienne. Et le plus inquiétant dans tout ça est que bon nombre de ces médias experts, sont d'anciens hauts gradés des armées des différents pays de l'OTAN. Alors, comment expliquez-vous cette situation ? Pourquoi, contre vents et marées et au mépris des intérêts vitaux des pays occidentaux, les élites politiques et militaires continuent dans cette fuite en avant, marquée par un déni inouï de la réalité et de fautes graves d'estimation et d'analyse des capacités de l'armée russe ?
En fait, la réponse se situe dans votre question. C'est que la plupart des généraux, alors je vais parler pour la France, la plupart, ce que j'appelle, ce que nous appelons avec Xavier Moreau, les généraux Gamelin et les spécialistes de plateau télé, on a affaire, que ce soit Yakovlev, Cerdan, Goya et les autres, à des gens qui sont OTAN. Or, le problème de l'OTAN, c'est que l'OTAN n'a jamais pris en considération, a fait une erreur stratégique grave, de ne jamais croire ce que disait l'armée russe et le gouvernement russe sur leur capacité de défense. Et donc, ils sont toujours partis du principe que la Russie mentait. Or, le problème, c'est que la Russie ne ment pas. Et les capacités de défense et les capacités militaires de la Russie aujourd'hui, plus les stratégies, font que l'armée ukrainienne est en déroute, font que depuis le début de ce qu'ils ont appelé la contre-offensive, ils n'ont rien gagné. Absolument rien gagné, parce qu'ils se sont battus pour des zones grises. Et le principal objectif de l'armée russe est de faire ce qu'on appelle une guerre d'attrition, avec le leitmotiv d'épargner le plus possible la vie des soldats russes. Et si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit finalement que c'est ce qu'a toujours plus ou moins fait l'armée russe depuis des décennies. Il y a quelque temps, j'étais à Maloïa-Roslavets pour faire des fouilles archéologiques sur les guerres napoléoniennes. Donc c'est dans le sud de Moscou, dans la région de Kalouga, où on s'est aperçu que si la France, techniquement, a gagné cette bataille, c'est là où nous avons perdu la guerre. Parce que les Russes ont dit « stop ». Et après, ça a été une guerre d'attrition terrible, où on s'est fait massacrer sur le retour, jusqu'à ce qu'on rentre dans nos pénates. Pendant la Première Guerre mondiale, ça a été plus ou moins la même chose. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi ce qu'ont fait les Russes avec l'armée allemande. Malheureusement, peut-être pas forcément prêts, ils ont pénétré assez en profondeur dans le territoire russe, jusqu'au moment où ça a été stop, et toute la retraite de Russie s'est transformée en une énorme boucherie. Et si on regarde ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on est sur cette même guerre d'attrition, à la seule différence, c'est que la Russie préserve au maximum la vie humaine de ses soldats,
d'accord,
et même préserve au maximum la vie humaine des soldats ukrainiens qui désirent se rendre.
Depuis 2006, la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN, parce que j'aimerais bien continuer par rapport à l'OTAN, à ce que vous venez de développer maintenant, pays membre de l'OTAN, est de 2% du PIB. Et le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN aussi est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris de recherche et développement. Donc, de nouveaux projets comme, entre guillemets, les personniques. Alors, les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Et ça, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit. En 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN à l'exclusion des États-Unis était de 1,43. Et en 2022, elle était de 1,65. Alors, vient la question, donc, qu'en pensez-vous de cette situation? Et est-ce que c'est vraiment sérieux dans la situation d'endettement dont souffrent les pays occidentaux, les pays, ces pays occidentaux qui continuent à, en boucle à dire que nous allons continuer à livrer des armes à l'Ukraine, ont-ils les moyens de leur politique?
Non. Non, clairement, ni l'Union européenne, ni les États-Unis n'ont les moyens de continuer cette politique. Mais encore une fois, je vais revenir en partie sur la question, parce que ma réponse sur la question précédente va induire celle-ci. L'OTAN a parfaitement mal estimé les capacités de l'armée russe et de la Russie en général. Les États-Unis, pareil, et l'Union européenne, pareil. Et pour les spécialistes, les pseudo-spécialistes que l'on a en France, comme ils sont gangrénés par l'OTAN, forcément, ils ne peuvent pas avoir les capacités de réflexion parce qu'ils ne se rendent pas compte sur place de ce qui se passe. Ensuite, ils sont soumis à une doxa et un narratif qui est vraiment particulier en Union européenne. Et si on regarde aujourd'hui toutes les décisions qui ont été prises, soit par, unilatéralement, soit par les États-Unis, soit par l'Union européenne, tant en matière de sanctions contre la Russie que pour leur propre développement, ils sont complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Quand Bruno Le Maire dit qu'en 15 jours, il va mettre l'économie russe par terre, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Comment peut-on mettre l'économie d'un pays qui a un taux d'endettement qui est hyper faible, je crois que c'est moins de 20% de son PIB, comment peut-on mettre l'économie d'un pays par terre avec un taux d'endettement si faible, avec ce qu'on appelle en termes économiques le plein emploi, puisqu'il y a entre 3 et 4% de chômeurs, c'est le économiquement parlant, tout prof d'économie vous dira que c'est le plein emploi. Quand on regarde ce qui se passe en Union européenne, on ne peut pas, c'est pas possible. La Russie est un pays qui est autonome, qui a son gaz, qui a son pétrole. S'il voulait se couper du reste du monde, quasiment, il pourrait le faire. Donc, c'est un pays qui est assis sur des réserves, même si une partie de ces réserves a été absorbée par les sanctions, on ne peut pas mettre ce pays par terre. C'est complètement illusoire. Donc, le développement de l'industrie d'armement européen est en grande souffrance. À mon sens, il est en grande souffrance et c'est induit par les mauvaises stratégies de l'OTAN, qui ont toujours considéré qu'ils étaient les meilleurs stratégiquement, la meilleure armée du monde. Je parle de l'OTAN, hein, bien évidemment, et que ils feraient qu'une seule bouchée de la Russie. Donc, on s'est reposé sur nos lauriers. Et au jour d'aujourd'hui, ni la France, ni l'Allemagne, ni même les États-Unis sont en mesure de fournir vraiment plus avant, sans puiser drastiquement dans leur stock stratégique des armes et des munitions. À tel point d'ailleurs, pour faire un parallèle avec Israël, c'est que les Américains... Mais les Américains ont quand même pris des munitions qu'ils stockaient en Israël pour les donner... les envoyer en Ukraine.
Et par rapport à ça, Cyril Delattre, c'est qu'il y a encore un plus dans tout ça, y compris de ce qui se passe en Ukraine et tout. Alors, il y a le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique
adoptée l'année dernière, qui a cimenté l'implication de l'OTAN, hein, je parle bien, de l'OTAN dans l'endiguement global de la Chine. Alors que c'est une alliance, comme son nom l'indique, nord-atlantique. Qu'est-ce qu'elle a à faire en mer de Chine ou en mer de Chine méridionale? Donc, et l'OTAN a également commencé à développer des liens avec les quatre États de l'Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. La France et la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent aussi leur rôle là-bas, militaire dans l'Indo-Pacifique. Et même l'Union européenne a publié sa stratégie pour la coopération dans l'Indo-Pacifique sur fond de formation de l'AUKUS, c'est l'alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, par les États-Unis. Alors, dans cet état-là d'affaiblissement de l'alliance et de son incapacité à faire déjà en termes de fourniture de la guerre contre la Russie en Ukraine, les États-Unis essayent-ils, à votre avis, d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts, étroits face à la Chine, en Indo-Pacifique, et sur fond d'une guerre larvée juste pour sauver leurs dollars et leur économie américaine? Et comment expliquez-vous ça?
D'abord, je pense très sincèrement que le général de Gaulle avait parfaitement raison. L'OTAN n'a plus sa vocation d'être. L'OTAN a peut-être eu, à l'époque de la guerre froide, une vocation qui aujourd'hui n'existe plus. L'OTAN n'est que le bras armé des Américains. Mmh. La France avait quitté l'OTAN, grâce au général.
En 66.
Voilà. Sarkozy nous a remis dans l'OTAN, bien malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes liés par...
L'article 5...
Voilà, j'allais dire, par différents, mais notamment par l'article 5, qui est une des raisons pour lesquelles, désespérément, l'Ukraine essaye d'intégrer l'OTAN pour tous nous plonger dans ce système. Deuxième point, il faut voir avec le processus de globalisation économique qui a été mis en place. Nous avons tous, que ce soit les États-Unis, la France, l'Union européenne, délocalisé bon nombre de nos entreprises en Asie pour générer plus de revenus et face à un moindre coût. On s'est donc coupé d'une certaine partie de notre industrie qui a permis à la Chine d'émerger assez rapidement, d'être très compétitive sur son secteur de marché, puisqu'aujourd'hui la Chine est le premier exportateur de voitures. Mmh. Beaucoup d'avions, notamment les Airbus, sont fabriqués en Chine, sont plus fabriqués à Toulouse, etc. Et donc aujourd'hui, on a une interdépendance économique entre la Chine et le reste du monde, et le reste du monde et la Chine. C'est-à-dire que d'un côté, la Chine a besoin du reste du monde pour exporter ce qu'elle produit,
absolument.
Et de l'autre côté, le reste du monde a un besoin impérieux de la Chine pour importer ce qu'on n'est plus capable de produire chez nous.
Ouais.
Donc on a ce dilemme. Alors il y a Taïwan, effectivement, mais
S'attaquer à la Chine dans ce cas, c'est scier la branche sur laquelle on est
assis. Mais on est dans une fuite en avant, puisque depuis 2019, avec les BRICS, on assiste à la montée en puissance d'un monde multipolaire auquel j'adhère totalement, face à un monde unipolaire auquel je n'adhère pas. Et donc l'économie américaine est en balance, avec une dette qui est colossale, qu'elle ne pourra jamais rembourser. Et donc on est dans une fuite en avant perpétuelle, qui consiste à essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver à n'importe quel prix.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Cyril Delattre pour la seconde partie de notre émission après une courte pause lors de laquelle nous vous présenterons les derniers développements au Proche-Orient. Le nombre de morts résultant du conflit entre le Hamas et Israël au Proche-Orient a augmenté des deux côtés. En Israël, selon les médias locaux, au moins 1300 personnes ont été tuées et dans la bande de Gaza, plus de 1300 personnes. Rappelons que le conflit à la frontière entre la bande de Gaza et Israël s'est intensifié dans la matinée du 7 octobre lorsque des colonies israéliennes ont été les cibles d'une attaque de roquettes sans précédent lancée par le Hamas. Simultanément, des combattants armés du même mouvement ont pénétré dans les zones frontalières du sud d'Israël où de nombreux civils ont été tués. En réponse, L'armée israélienne a lancé des frappes massives sur le territoire palestinien, souvent contre des cibles civiles. Le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a déclaré que la bande de Gaza est confrontée à une catastrophe humanitaire. De nombreux habitants sont privés d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a averti que la situation catastrophique pourrait s'étendre au-delà de la région. Comment l'escalade de ce conflit pourrait-il menacer l'Afrique ? Comment expliquer que les services de renseignement américains et israéliens aient pu ignorer les préparatifs de l'attaque ? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, notre correspondant de Spoutnik Afrique s'est entretenu avec le politologue marocain Abdelhak Najib.
Selon Moscou, les conséquences humanitaires du conflit israélo-palestinien, qui s'intensifie en ce moment-là, risquent d'affecter toute la région de MENA jusqu'en Afrique du Nord. Partagez-vous ces préoccupations et comment voyez-vous les risques pour le continent africain et le Maghreb en particulier ?
La région MENA et la région nord-africaine est toujours touchée par ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, notamment le conflit entre la Palestine et Israël, qui s'est intensifié avec une escalade inédite, avec des victimes des deux côtés, et ce qui n'augure de rien de bon pour l'avenir. Je pense que les pays qui vont être le plus touchés sont d'abord les pays qui sont limitrophes de la zone du conflit. On pense au Liban, on pense à la Syrie, qui traverse déjà une profonde et terrible crise au bord du chaos, et surtout l'Égypte. L'Égypte, qui est frontalière avec Gaza et qui a toujours fait les frais sur le plan humain pour la gestion des réfugiés, pour l'aide, surtout pour les secours, pour apporter l'aide qu'il faut aux populations palestiniennes. On parle déjà de plus de 150 000, voire plus, réfugiés déjà à cause de cette escalade. Et c'est un flux humain extrêmement important. Mais quand on parle de l'Égypte, qui est limitrophe, les conséquences sont immédiates. Et il faut un plan d'action, il faut une stratégie de travail avec toute une logistique à mettre en place pour pouvoir aider les réfugiés palestiniens et surtout aussi essayer de contenir le conflit. Parce que c'est un conflit qui risque de s'étendre d'un moment à l'autre. Si cette guerre continue avec la même intensité, si on ne revient pas à la table des négociations, si on n'entend pas raison d'un côté comme de l'autre, ça peut s'enflammer et l'embrasement peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que l'on ne pense. Ceci pour l'Égypte. La Libye est exclue avec ce qui se passe en Libye, mais bon, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont des pays qui ont toujours soutenu la cause palestinienne, qui ont toujours apporté l'aide aux Palestiniens à différents niveaux, à différents degrés, chaque État selon ses accointances et surtout ses relations et la profondeur des relations avec la Palestine. La Tunisie, on voit bien le président tunisien et ses déclarations. Après les événements qui ont toujours cours dans les territoires occupés et dans la bande de Gaza et en Palestine, le soutien est immense et la volonté d'aider, il est toujours là. Maintenant, les Tunisiens peuvent recevoir encore une fois des réfugiés, ils peuvent apporter une aide humanitaire, ils peuvent aussi apporter une aide matérielle, bien que la Tunisie traverse une crise aussi humaine, sociale et surtout économique importante. L'Algérie, idem, ils ont des relations très proches des Palestiniens et pour eux, comme pour le Maroc, la question de la Palestine est une question sacrée. Maintenant, venons-en au Maroc. Le Maroc, qui est quand même un des pays qui soutiennent le plus la Palestine, Sa Majesté le Roi du Maroc et Raïs, c'est le président de Beit Mal Quds. Nous sommes, le Maroc est véritablement le garant donc de la stabilité de la ville d'Al-Quds. Et ceci revêt pour nous une symbolique extrêmement forte dans la gestion de cette crise. Il est vrai que le Maroc a des relations depuis 2020 avec Israël, mais ceci n'empêche pas la condamnation par le Maroc de toute agression contre le peuple palestinien depuis toujours, depuis que la guerre a éclaté dans ces territoires-là. Voilà ce qui est important. Maintenant, le Maroc est toujours disposé à aider les populations palestiniennes, à apporter l'aide humanitaire, logistique qu'il faut. L'Afrique aussi, la région du Sahel, est une région à majorité musulmane et ce sont des gens qui soutiennent la cause palestinienne avec fermeté, avec vigueur. Ils sont évidemment, j'ai lu tout ce qui a été écrit, toutes les déclarations des responsables dans des pays du Sahel et même en Afrique de l'Ouest. Il y a véritablement une condamnation de cette guerre, il y a une condamnation de cette escalade, il y a un appel presque unanime à un cessez-le-feu pour que l'on puisse retourner à la table des négociations. Les choses s'intensifient avec le passage du temps parce qu'on n'a pas réglé le problème à la source. Le problème à la source, il est clair. Il faut que l'État d'Israël vive et il faut que l'État palestinien existe et vive aussi. On ne peut régler ce problème qu'en ayant deux États séparés, souverains, dans le respect l'un de l'autre et dans le respect surtout voisinage. Mais à ce moment-là, ce sont les grandes puissances, je pense aux États-Unis, je pense aux Européens, je pense à la Russie, je pense à la Chine, qui doivent se mettre à table et décider une bonne fois pour toutes de trouver une solution viable à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies.
Moscou estime également que les États-Unis disposaient d'informations sur l'attaque du Hamas contre Israël. Pourquoi, à votre avis, Washington n'aurait-il pas prévenu Tel Aviv?
Si, comme les services russes l'affirment, Washington disposait d'éléments concernant cette attaque, je pense que les services secrets du monde sont à même. Les services secrets israéliens ne peuvent pas être pris de court. On parle de quand même des services qui font partie des quelques services les plus performants au monde. Ils ne peuvent pas ne pas être au courant ou au moins savoir. Peut-être qu'ils ne sauraient pas leur hache, mais ils savaient quand même que quelque chose de grand se préparait. Si les Américains le savaient et n'ont pas averti Tel Aviv, ça m'étonnerait grandement. Mais à ce moment-là, si c'est le cas, on doit se poser la question à qui profite l'escalade, à qui profite la tension. Et est-ce qu'il y a une volonté, quelque part, que la guerre prenne une autre forme Palestine et en Israël, et à ce moment-là, est-ce que cela augure d'un conflit beaucoup plus généralisé, beaucoup plus ouvert? Et c'est un risque énorme à prendre. Je ne pense pas du tout que Washington soit prête en ce moment à ce qu'il y ait, ou voudrait qu'il y ait un conflit de cette ampleur dans la région. Déjà, un conflit énorme en Europe qui engage quand même pratiquement plus de 40 pays qui font coalition contre la Russie. Ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et toute une alliance avec l'OTAN et beaucoup d'autres pays. Donc c'est déjà le prémisse d'un conflit beaucoup plus généralisé et beaucoup plus global. Si on ajoute à cela un autre conflit de cette envergure au Moyen-Orient, ça va être une véritable catastrophe.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement PDG de Uldis Aviation. Il est spécialiste de la formation des pilotes et du personnel navigant. Cyril Delattre, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Avec plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Alors maintenant, comme je l'ai annoncé à la fin de la première partie, passons un peu à ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen, au Proche-Orient, en Palestine, en particulier au Gaza. Alors, j'aimerais bien vous lire une citation du sénateur russe Alexei Pouchkov, francophone, très connu en France d'ailleurs. Mm-hmm. Alors, il dit dans une déclaration, la priorité de l'Ukraine dans la politique de l'Occident diminuera avec l'escalade en Israël et selon lui, les États-Unis doivent désormais travailler sur deux fronts actuellement, l'ukrainien et israélien, faute de quoi tout le monde sera convaincu qu'ils ne peuvent pas supporter le fardeau du leadership mondial et que les responsables les plus fanatiques à Washington devraient se faire harakiri. Et dans le même sens, dans ces conditions, il estime que Washington devrait remercier Dieu et Xi Jinping, le président chinois, que la crise autour de Taïwan ne soit pas, en tout cas pour l'instant, abattue sur eux également. Et les États-Unis ont pris trop d'engagements envers le monde. C'est le cas typique d'un empire confronté à de nombreux défis et dont les forces sont de plus en plus sollicitées, mais je rajouterai de plus en plus aussi, faibles et incapables de faire face aux demandes, résume-t-il alors. Alors, qu'en pensez-vous ?
Et sommes-nous en train d'assister à des changements profonds dans la géopolitique mondiale américaine ?
Alors, d'abord, sur le problème de ce qui se passe à Gaza, personne ne peut nier la barbarie du Hamas.
Oui.
Ça, c'est un fait indéniable. Mais l'ouverture de ce que moi j'appelle ce second front pose de sérieux problèmes et pose de sérieuses questions. L'Ouest, ce que j'appelle l'Ouest, c'est-à-dire l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, n'a plus la capacité aujourd'hui à fournir à l'Ukraine, sans taper dans des stocks stratégiques, et c'est déjà ce qu'ils ont commencé à faire, de munitions. Je vois mal comment, sans dépecer l'un, ils vont pouvoir alimenter l'autre. Ça me paraît relativement compliqué. Ce qui pousse d'ailleurs Zelensky à dire et à accuser la Russie d'armer le Hamas, ce qui est complètement utopique. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Et à accuser la Russie d'alimenter un conflit de l'autre côté pour qu'on voit pas ce qui se passe en Ukraine. Le vrai problème de tout ça, c'est que effectivement, par des idées de longue date, les Américains sont très proches des Israéliens. Et les Américains ont beau dire qu'ils vont continuer d'alimenter l'Ukraine et d'alimenter Israël, je vois pas comment ils vont pouvoir le faire. À mon sens, ils vont commencer par diminuer l'alimentation à l'Ukraine. Ils vont reporter ça sur l'Union européenne, qui évidemment ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc ils vont jeter, que ce soit la France, l'Allemagne et les autres, ils vont se jeter à corps perdu dans l'alimentation à tout va de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, les Américains risque de s'atteler avec les Israéliens. On est clairement aujourd'hui dans un changement de politique. Il faut impérativement qu'on stoppe ce conflit en Israël, qui est meurtrier à tous les points. Personne ne peut accepter cette barbarie. Mais on a deux poids, deux mesures. Regardez la déclaration d'Ursula von der Leyen hier, qui disait qu'il était absolument inacceptable et intolérable qu'Israël mette un blocus autour de Gaza, parce que ça va entraîner un déficit humanitaire qui va être terrible. Mais est-ce que quelque part, elle condamne les bataillons d'Azov, Haïdar, Pravi Sektor, Svobodna, Kraken et tous les autres qui ont mis à feu et à sang l'Ukraine en tuant des Ukrainiens russophones juste parce qu'ils étaient russophones? Ça a commencé en 2014. Quand est-ce que l'Union européenne a condamné ça? Jamais.
Il y a aussi c'est-à-dire la réaction par rapport à l'État d'Israël aussi, qui ne fait pas dans la dentelle quand ils bombardent les civils et quand c'est justement, c'est ce que vous venez de dire maintenant. On dit que l'armée russe détruit des choses en Ukraine en bombardant avec des missiles et ainsi de suite, mais elle a aussi bombardé Gaza avec qui est l'une des régions dans le monde le plus dense en population, lancé des bombes.
2 millions d'habitants dans la bande de Gaza.
2 millions 300 000. C'est en fait une sorte de combat entre de façon très barbare de voir la vie humaine. Et qu'il s'agit là de prendre le problème, comme vous l'expliquez tout à l'heure, un peu plus haut, prendre un peu d'altitude et regarder comment...
Alors, posons-nous une question.
Oui.
Personne ne peut nier que les services de renseignement israéliens sont loin d'être des branquignoles, sont plutôt des gens sérieux, entre le Mossad, le Shin Bet et puis toutes les autres agences. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu ?
Ouais, mais justement, j'aimerais bien vous lire une déclaration de Maria Zakharova. Moscou estime que les États-Unis ne pouvaient pas ne pas, et donc ça sous-entend, quand on dit les États-Unis, ça sous-entend tout également, on peut le comprendre dans les services de renseignement israéliens, parce qu'on sait qu'ils travaillent en synergie complète, disposer d'informations sur l'attaque du Hamas, parce que vous qui êtes spécialiste, est-ce qu'une telle attaque aurait pu être décidée, comme vous le disiez, une semaine à l'avance ou 15 jours à l'avance? Donc, ils ne pouvaient pas ne pas être au courant. Et pourquoi, à votre avis, dans ce cas-là, Washington, si je reprends le propos de Zakharova, n'a pas prévenu Tel Aviv?
Moi, j'ai pas mal de questions, mais oui. Je suis tout à fait d'accord avec Maria Zakharova. L'analyse est très, très pertinente. D'abord, qui a armé le Hamas ? Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on a retrouvé des missiles anti-chars dans les mains du Hamas, qui sont des missiles anti-chars britanniques.
D'accord.
Qu'est-ce que ces missiles anti-chars britanniques foutent dans les mains du Hamas et qui leur a donné ?
Ouais.
Premier point. Deuxième point, d'où viennent les armes américaines dont le Hamas dispose ? Est-ce que ce sont des stocks d'armes américaines qui viennent d'Afghanistan ?
Dans cette bataille, toi, vous voulez dire ?
Dans cette bataille, oui, tout à fait. Oui. Où est-ce que ça vient ? Comme ça peut venir des missiles anti-chars britanniques, de la contrebande et du marché noir d'armes, au départ de l'Ukraine, puisque tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que l'Ukraine est un pays qui est hautement corrompu, qui a un marché parallèle, à plein d'égards, et dont on sait que certains se sont enrichis en revendant ces armes, comme d'autres se sont enrichis à une époque, en revendant les armes lors du conflit en ex-Yougoslavie, qui alimente toujours le territoire français, par exemple, et d'autres territoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut pas prendre la CIA, ni les services ukrainiens... Les services israéliens, pour des enfants de cœur. Les gars savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas un cafard qui peut passer la bande de Gaza sans que ce soit vu.
C'est-à-dire le mur qui sépare la bande de Gaza.
C'est ce que moi j'appelle l'une des frontières les plus dangereuses au monde. Comment ils ne l'ont pas... On ne peut pas monter une opération comme ça, c'est impossible sans des mois de préparation. Et forcément, à un moment donné ou à un autre, ça se sait. On a déjà les Égyptiens qui disent « Mais nous, on avait prévenu, personne ne nous a écoutés. » Netanyahou a dit « Non, non, on n'a pas été prévenu. » C'est pas possible. Donc, il faut voir beaucoup plus large que ça. Le Premier ministre Netanyahou fait partie de la droite et de l'ultra-droite israélienne. Ça lui donne, ce qui s'est passé lui donne une légitimité pour éradiquer, selon ses propres termes, le Hamas. Mais évidemment, c'est au détriment des populations de la Palestine. Moi, j'ai deux craintes. La première, c'est que, vu la réaction de Zelensky, qui a tout de suite attaqué la Russie en accusant la Russie d'aider le Hamas, c'est pour attirer la lumière, entre guillemets, vers lui et que le monde ne se détourne pas de l'Ukraine et de l'échec, Dieu merci, de la contre-offensive ukrainienne. Au détriment d'Israël. Ce qui peut provoquer deux choses. La première, c'est que, désespéré comme il pourrait l'être, Zelensky pourrait être enclin à mener une opération sale, dont des civils seraient les victimes, pour accuser la Russie et réattirer la lumière vers lui. Ça, c'est une possibilité.
Sale, c'est-à-dire avec des armes sales, radioactives
Non, ça, je pense pas qu'il irait jusque-là, mais tout le monde sait que Boutcha, c'est ce genre d'opération. Ouais. Izium, c'est ce genre d'opération aussi. Tout le monde sait que c'est pas les Russes qui l'ont fait, même des Américains, certains Américains des forces spéciales l'ont fait, enfin, l'ont dit, c'est pas eux. On a d'autres personnes qui l'ont dit aussi, mais bon, ça fait partie de... La première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc, ça, c'est ce genre d'opération qu'ils pourraient mettre en place, notamment avec tenter de reprendre la centrale nucléaire d'Energodar, pour lequel ça pourrait mal se passer, pour les Ukrainiens, mais si tant est qu'ils puissent arriver à faire quelque chose, ça permettrait de dire, ah bah oui, mais c'est les Russes qui l'ont fait. Bon. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que... c'est le risque d'embrasement d'un nouveau front au Moyen-Orient entre Israël, le Liban, l'Iran, le tout baqué par les Américains, puisque les Américains ont déjà envoyé un porte-avions. Donc un porte-avions, c'est pas juste le porte-avions, hein, c'est le croiseur, les sous-marins qui vont avec, le ravitaillement, etc. Voilà, plus les Navy Seals et la Delta Force qui va bien derrière pour essayer de récupérer des otages à Gaza, ce qui est juste là assez normal. Pour récupérer des otages, j'entends, mais la récupération d'otages...
Donc j'aimerais bien vous poser une question sur ça, sur les enjeux de ce qui pourrait être derrière cet embrasement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quelques semaines après l'élargissement des BRICS, le sommet des BRICS, à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, soit comme on le sait tous, trois poids lourds de l'OPEP, et puis l'Égypte. Contre toute attente, le mouvement Hamas, d'un seul coup, comme ça, a exécuté depuis quelques jours une opération militaire de grande envergure, et ainsi de suite. Et le sommet des BRICS a succédé aussi à la réussite diplomatique de la Chine, avec l'aide de la Russie certainement, mais essentiellement la Chine, à réconcilier l'Arabie Saoudite oui. et l'Iran. Donc, comment lire ces événements à l'aune des changements de ce qui se passe là à Gaza, et notamment la normalisation entre l'Iran et Téhéran. Et puis, j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que Moscou met en garde contre les conséquences humanitaires du conflit israélo-palestinien qui risquent d'affecter y compris la région de l'Afrique du Nord.
Oh, et pas que la région de l'Afrique du Nord, on peut parler de l'Union européenne aussi. Alors, pour revenir sur la première partie de la question, il y a effectivement une normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans le cadre de la montée en puissance des BRICS, grâce à la Russie et à la Chine, ou à la Chine et à la Russie, dans l'ordre que l'on voudra bien y mettre. Et quand on regarde les réserves de pétrole qui sont en Iran et l'Arabie Saoudite, on s'adresse plus la Russie, on s'adresse à l'OPEP. Tout le monde sait que les sanctions américaines ont été de mettre un bouclier tarifaire sur le prix du pétrole russe pour essayer d'emmerder les Russes un petit peu plus. Ça marche pas. Il faut donc trouver un moyen pour lequel ça va marcher. Tenter d'embraser toute la région du Moyen-Orient et de foutre par terre la montée en puissance des BRICS. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode-là, ce qui est une fuite en avant des Américains. À mon sens, mais ça c'est mon analyse très personnelle qui n'engage vraiment que moi et moi personnellement, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement dangereux et c'est une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte dont je ne sais pas comment on va pouvoir la refermer, si tant est qu'on puisse la refermer. Alors peut-être qu'il s'agit d'autre chose et peut-être qu'on n'ira pas jusque-là. Ça,
oui, mais en tout cas, le risque est là. Il a la flambée du pétrole et tout. Je crois que c'est par rapport à ça et l'inflation qu'elle va engendrer. Et vous avez tout à fait raison de le dire que même en Europe, pas uniquement en Afrique du Nord, cela va avoir des conséquences fâcheuses.
Ça va avoir des conséquences fâcheuses à différents égards. C'est d'abord, pareil, quand on reprend la doxa et le narratif qui est fait par les médias européens et les médias français, je vais parler des médias français puisque je suis français, je les connais à peu près, on a un discours qui est présenté où on assimile Hamas et Palestiniens. Deux choses complètement différentes. Il y a les Palestiniens et là, il y a le Hamas qui est une entité terroriste. Point. Et étant donné qu'on a énormément de gens en Union européenne qui sont issus de l'immigration, ok, très bien, mais avec des discours qui sont tenus qui vont pas forcément dans le bon sens, on peut éventuellement, si c'est pas maîtrisé, assister à différentes opérations à différents endroits, de déstabilisation même de ces populations, à l'égard des populations françaises ou même des juifs qui sont en Union européenne et en France. Je lisais ce matin avant de venir que Darmanin avait mis sous surveillance plus de 1000 sites juifs de façon à les protéger de ce qui pourrait... Donc c'est quelque part, il y a une crainte.
Absolument.
Voilà. Et là, si on assiste en plus à ça... je suis pas très serein pour l'avenir des choses. Humainement parlant et humanitairement parlant, ça va être extrêmement difficile. Quand on regarde toutes les migrations qui a lieu entre l'Afrique du Nord et le sud de la Méditerranée, en passant par Lampedusa, etc., c'est complètement non maîtrisé. C'est totalement aux mains de certains cercles mafieux qui prennent directement contact avec les ONG pour leur dire, tiens, on a tant de bateaux qui vont arriver à tel endroit, venez les chercher. Et après ça, on en fait quoi de ces gens-là? Mais le problème, c'est on en fait quoi de ces gens-là? Moi, je veux bien qu'on accueille des gens, mais il faut qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. La France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de le faire. Et plus on va encore déstabiliser ces régions du Moyen-Orient, plus on va se retrouver dans des flux migratoires avec tout ce que cela peut comporter, de bien ou de pas bien. Mais dans ce cas-là, on va surtout voir des choses surtout, pas forcément bien surtout, se passer.
Surtout avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et que maintenant, de toute façon, on savait déjà, il y avait des enquêtes comme la Norvège qui a démontré qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été livrées à l'Ukraine, surtout dans le marché noir. Donc, si ces armes sont arrivées en Palestine, qui dit qu'elles ne seraient pas arrivées en Europe.
Mais elles sont déjà arrivées en Europe.
Voilà.
La Norvège a déjà dit qu'elles étaient arrivées au travers de leur pays en Europe. Je ne serais pas non plus surpris qu'elles soient déjà arrivées en France. Et les cartels mexicains possèdent déjà des armes anti-chars qui étaient destinées à l'Ukraine.
La question que je me pose, je n'ai pas de faits qui vont aller pour l'instant, qui vont dans... Mais c'est une inquiétude, tout simplement. Parce que... On a vu, par exemple, ce qui s'est passé en Libye. Et la Libye a été détruite. Des tonnes d'armes qui ont été déversées étaient bien au-dessus de ce qui était nécessaire pour abattre le régime de Mohamed Gaddafi. Et après, ces tonnes d'armes se sont retrouvées au Sahel. Mais une bonne partie était venue en Syrie pour créer tout le front islamique et l'armée. Ah, donc, moi, la question que je me pose, si l'Ukraine a perdu la guerre. C'était un fait. Ce n'est même pas la peine de s'attarder sur ça. Et que c'est une question maintenant juste d'éteindre le feu. Mais stratégiquement, c'est terminé.
C'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait...
Mais juste ma question. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est les armes qui se retrouvent en Europe et qui dit que demain, tous ces cinglés d'Azov, de Svoboda et ainsi de suite ne se retrouvent pas en Europe, ils ne se sentent pas trahis par les élections d'Onto, et que n'importe qui après peut les manipuler ou à faire des choses pas très sympathiques, pas très catholiques, comme on dirait.
les services russes, alors c'est une information qui est publique, donc je ne trahis aucun secret, les services russes ont identifié à ce jour 13 sociétés militaires privées étrangères opérant en Ukraine, sans parler des mercenaires. J'ai un dossier épais comme ça, qui n'est pas la source de mon propre travail. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ce travail, dont je ne donnerai pas le nom publiquement parce que je n'ai pas pu le contacter avant, donc je ne sais pas s'il acceptera ou s'il n'accepterait pas. Mais c'est sous la forme d'un PDF où sont listés tous les mercenaires français connus à ce jour, qui opèrent contre la Russie en Ukraine. C'est par liste alphabétique, avec l'historique, des copies d'écran, d'échanges que cette personne a pu avoir avec ses mercenaires, d'où ils viennent, etc. Le point commun de tout ça, c'est l'idéologie. Ils ont tous un point commun, c'est l'idéologie néo-nazie qui subsiste encore en Europe. Elle subsiste en Europe au travers de groupuscules qui sont liés soit aux hooligans du monde du football, soit à des groupuscules qui sont aux États-Unis, soit à des groupuscules qui sont même en Angleterre, sans parler de la France et de l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que dans le début de son de ce travail, il précise que officiellement la France n'en a reconnu que deux. Donc c'est particulièrement inquiétant de voir toutes ces armes en circulation, de voir que la corruption endémique de l'Ukraine fait qu'on retrouve ces armes un petit peu partout. Et d'ailleurs, dans les cités HLM en France, où on a le plus de, où les autorités françaises ont le plus de problèmes dans ce qu'on appelle chez nous les zones de non-droit, qui sont tenues par des trafiquants, etc., on trouve encore des armes qui datent du conflit en Yougoslavie. Et donc.
Et alors, pour finir l'émission, Cyril Delattre, quelle est la place actuellement? Comment voyez-vous le futur de l'Europe dans tout ce bazar? En particulier, ce qui sert de moteur, si l'on peut dire, de l'Union européenne, le couple franco-allemand?
Bah, le couple franco-allemand, pour être très honnête, la procédure de divorce est largement entamée. je ne crois pas du tout au couple franco-allemand, absolument pas. Je pense que l'état économique de l'Union européenne est catastrophique. Les sanctions que l'Union... Alors, je ne vais même pas parler des sanctions américaines, mais je vais parler des sanctions européennes qui ont été mises en place à l'encontre de la Russie, puisque Bruno Le Maire, au risque de me répéter, Bruno Le Maire avait dit qu'en 15 jours, il allait mettre l'économie russe par terre. En 15 jours, il a mis l'économie européenne par terre. Je ne vois pas comment, économiquement, l'Union européenne peut s'en sortir si on n'arrête pas le train immédiatement et que l'on n'effectue pas un changement de stratégie vis-à-vis de la Russie, qui, elle, par contre, a bien appris ses leçons, puisque la Russie est un pays qui est très ouvert, et je les en remercie pour ça. D'ailleurs, moi, en tant que Français vivant en Russie, c'est un vrai bonheur. Je n'ai jamais rien ressenti à mon égard. En tant que Français, c'est exceptionnel. Mais il serait temps d'arrêter le train, il serait temps de réfléchir deux secondes un peu plus loin que le bout de son nez et de se rendre compte que on ne peut pas vivre en Europe sans la Russie. C'est quasiment impossible.
Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Cyril Delattre, je vous remercie pour toutes ces informations.
Et avec
pour,
grand plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci Kamal, à très bientôt et merci de m'avoir invité.
C'était le commandant de bord français à la retraite Cyril Delattre, actuellement PDG de Whale Geese Aviation, spécialiste de la formation de pilotes et de personnel navigant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.